Historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Demain, venez découvrir le récit de trois magnifiques.
Laurent de Médicis, descendant de la célèbre dynastie en Italie, dit Laurent le Magnifique, qui n'était pas vraiment magnifique. Puis celui que l'Occident a surnommé également le Magnifique, le sultan Soliman Ier, qui n'a lui en revanche pas usurpé son nom.
Et un magnifique qui le restera sur grand écran, l'inoubliable Jean-Paul Belmondo.
J'avais peur que nous nous rations.
Nous ne pouvions pas nous rater, Tatiana.
Historiquement vôtre, votre émission de récits historiques.
À demain, dès 16h sur Europe 1.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Ça fait débat avec ce soir Marie-Virginie Klein, bonsoir.
Bonsoir.
Conseillère en communication fondatrice de Iconic Conseil. Bonsoir à Frédéric Dabi.
Bonsoir.
Directeur général de l'opinion à l'IFOP. Alors, justement, à propos d'IFOP, regardons un petit peu ce sondage pour le JDD, mon cher Frédéric. Les cotes de popularité du président et de sa première ministre, c'est pas forcément le score que peut-être eux attendaient.
Oui, clairement, ça montre qu'une fois de plus, il n'y a pas d'état de grâce. On est dans un second mandat, il n'y a pas d'élan comme premier mandat. Emmanuel Macron perd 3 points, Elisabeth Borne en perd 8. Dans l'histoire du baromètre IFOP JDD, qui est le plus ancien baromètre de la 5e République, j'aime bien le rappeler, le record précédent, c'était Alain Juppé qui avait perdu 8 points au début de son mandat en 1995. Et ça s'était, comme vous en souvenez, pas très bien déroulé et fini. Non, ce qui est très notable, Emmanuel Macron reste quand même à un étiage qui est le même depuis maintenant 2 ans, entre 37 et 40%, parce qu'il a son socle de convaincu. Mais ce qui est
il n'est pas descendu à 12 points comme François Hollande en fin de mandat.
Ouais. Tout à fait, comme Jacques Chirac en fin de mandat également. Mais il faut avoir en tête la malédiction du second mandat où une grille de lecture s'était installée pour François Mitterrand, pour Jacques Chirac, et qui commence à s'installer dès maintenant, c'est l'inaction. L'inaction, les Français nous disent, et c'est des propos qualitatifs, ce sont des verbatimes, qu'ils ont l'impression que le président ne s'intéresse plus à rien. C'est confirmé par son absence pendant la campagne présidentielle. Il y a un soupçon de manque d'implication. Et puis, Elisabeth Borne, bien sûr, il y avait la campagne électorale, mais les Français sont assez durs. C'est l'idée qu'elle ne propose rien dans un contexte où jamais, et vous en avez parlé avec Philippe Ballard, la question de l'inflation, la question du pouvoir d'achat a été aussi prégnante dans le discours des Français. Et c'est une rupture très forte avec ce qu'est le macronisme. Qu'est-ce qui faisait que pendant son premier mandat, il y avait un socle de soutien finalement important, même s'il était minoritaire? C'était qu'il agissait, il transformait le pays. Donc, code d'alerte, non. Mais on voit très bien que c'est comme si son mandat durait 10 ans. Il n'y a pas eu, si je puis dire, d'effet, d'état de grâce post-présidentiel.
Marie-Virginie Klein, vous faisiez partie de celles qui souhaitaient une femme à Matignon. Vous en avez écrit des tribunes. La voilà à Matignon. Elle voit sa confiance renouvelée par Emmanuel Macron encore ce matin. Ça prend pas. En tout cas, ça prend pas maintenant.
Oui, le fait d'être une femme n'améliore pas totalement les courbes de popularité. Non, ce qui est inquiétant, moi, dans ce que j'ai lu du sondage IFOP, c'est que ça touche le socle vraiment électoral. Ça touche les fidèles des macronistes. Donc ça, c'est quand même une nouveauté. Et la deuxième chose, c'est qu'en général, quand une courbe de popularité commence à baisser, c'est assez difficile de la redresser. Hein. Quand la chute est abordée, c'est rare, il faut des gros événements pour qu'elle se redresse. Donc je pense qu'il y a un contexte qui joue évidemment pas du tout en leur faveur. Je pense qu'il faut un peu dépersonnifier sur le sujet d'Elisabeth Borne. Je ne vois pas quel Premier ministre aujourd'hui aurait forcément une meilleure cote de popularité. Je dirais, il y a une inflation très dure, il y a un contexte gouvernemental absolument inédit.
Premier ministre magique, quoi.
Moi, j'ai pas l'impression.
Moi, je partage ce que vient de dire Marie-Virginie Klein. C'est vrai que les Français ne sont que très rarement sur une logique de casting. Ils avaient aimé Rocard en 88. Ils sont souvent sur une logique d'attentisme et sur une logique de résultat. Et c'est vrai que sur la question économique et sociale, il y a des choses que les Français voient, la hausse des taux d'intérêt, le prix du carburant. Le discours des Français est complètement écrasé, comme jamais je l'ai vu, sur la question du pouvoir d'achat, même de la relégation chez les Français qui vivent dans des communes rurales, qui se disent, est-ce que ça vaut la peine de prendre la voiture pour emmener le gamin à l'école compte tenu du prix de l'essence. C'est vrai qu'Elisabeth Borne a une équation personnelle qui s'impose, une femme sérieuse, qui est moins techno qu'experte. Mais c'est vrai que pour l'instant, là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a rien qui a été proposé. Et les Français juge sur les résultats.
Bah oui, il n'y a rien qui a été proposé parce qu'il n'y a rien qui a été décidé. Est-ce que vous avez observé les dernières déclarations audio et vidéo d'Elisabeth Borne, notamment cette grande interview à LCI avec Rutel Krief? Vous n'avez pas l'impression quand même qu'elle est extrêmement prudente, cette nouvelle première ministre?
Oui, on a l'impression qu'elle n'a pas,
pas
les clés de la maison et qu'elle ne peut pas dire exactement ce qu'elle veut et qu'on a l'impression de l'extérieur qu'il n'y a pas suffisamment de communication entre le président et la première ministre parce qu'on sent qu'elle ne sait pas ce qu'elle est vraiment autorisée à dire.
Ben oui, mais justement, vous qui êtes experte en communication, qui préparez... certains chefs d'entreprise à la parole, comment est-ce que vous la coacheriez, Elisabeth Borne? C'est difficile. Alors en même temps, quand on a la clé d'aucune chambre et qu'on peut rester que dans le couloir, c'est compliqué.
En général, ce qu'on conseille, c'est avant de prendre la parole, il faut vraiment avoir des choses à dire et des choses concrètes, surtout dans des
Donc elle aurait dû refuser les interviews.
Oui, parce que si elle n'a pas quelque chose de fort à proposer, de fort à dire, et qu'elle rentre que dans les conversations de politique politicienne, puisque c'est le cas aujourd'hui, ça ne peut pas donner quelque chose de positif. Donc soit elle a des annonces sur le pouvoir d'achat, soit elle a des annonces sur le prochain gouvernement, sur une façon différente de faire de la politique. Mais si elle n'en a pas, oui, j'aurais plutôt recommandé de ne pas en faire.
Madame Borne, taisez-vous, c'est ce que dit Iconique Conseil.
elle ne l'a pas dit comme ça, mais c'est vrai que les Françaises sont très sensibles au décalage entre le discours et les actes, entre le ministère de la parole et les actes concrets. Alors, une première ministre qui déserterait dans un moment politique si intense, ça serait également mal vu, il faut trouver un équilibre. Mais c'est vrai que d'une part, et c'est triste à dire, la scène parlementaire n'est pas visible par les Français en dehors des questions au gouvernement. Ça peut changer, compte tenu de l'événement du séisme qui a été observé il y a seulement une semaine. On s'y habitue, mais rappelons le côté historique d'une majorité relative extrêmement ténue, de ce score du RN, de la gauche qui fait une entrée fracassante à l'Assemblée. Mais c'est vrai qu'Elisabeth Borne, les marges de manœuvre aujourd'hui semblent relativement ténues. On a en tête le président de 1988, mais il ne manquait à Michel Rocard à la gauche que 13 sièges. Là, il en manque 40-45. On peut imaginer que sur des textes, un consensus émerge. C'est intéressant de voir que la tonalité du discours, par exemple de la France insoumise sur la question de l'avortement et son inscription dans la Constitution, avait été beaucoup moins, si je puis dire, raide. RAIDE, bien sûr, comparé à ce qui avait été la tonalité de la campagne législative, mais on peine quand même à imaginer, sur des sujets au cœur des préoccupations des Français, que l'âpreté, la radicalité observée à gauche comme à droite se transforme en compromis et consensus à l'allemande et permettent à Elisabeth Borne de faire voter ces lois, sachant que les Français ne supporteront pas, je tiens à le dire très solennellement, une paralysie de l'Assemblée nationale. Ils veulent une action, ils veulent des résultats dans un contexte où les inquiétudes climatiques, les inquiétudes économiques et sociales, les inquiétudes sécuritaires, le Stade de France reste dans le discours des Français très présent, sont majeurs.
C'est peut-être la raison pour laquelle, et c'est ce que nous relatait Arthur Delaborde, qui est l'envoyé spécial d'Europe 1, au château d'Elma, où se tient le G7 en Bavière. Et Arthur nous disait tout à l'heure du service politique d'Europe 1 que Emmanuel Macron avait effectivement renouvelé la confiance à Elisabeth Borne, lui demandait un gouvernement plus dans l'arc républicain sans le RN et sans évidemment, je dis pas évidemment d'ailleurs, sans le RN et sans la NUP, et d'une certaine manière qu'il croyait la France insoumise et qui oui exactement ouais. Et qu'il tenait encore à son idée de Conseil national de la refondation parce que il voyait encore, parce que c'est comme ça que fonctionne aussi la Ve République, que l'exécutif aurait un rôle primordial, que ce Conseil national de la refondation aurait un rôle important et que du coup d'une certaine manière il en oubliait le travail législatif, ce qui est un peu grave quand même.
Oui, ça serait quelque chose de compliqué.
Alors, c'est pas dit comme ça.
Mais on peut.
C'est ce que nous disait Arthur tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà,
oui, on peut faire cette analyse là. C'est vrai que si
on peut s'interroger,
si la Chambre devient ingouvernable, trouvons non pas une Chambre de substitution, mais un autre organe. Mais il ne faut pas oublier que les Français, au final, ne jugeront que le couple exécutif en termes de résultats. On est dans un système, bien sûr, parlementaire,
et
mais
pas
où,
le Parlement.
Oui, où le princeps, si je peux dire, reste au président, à sa chef de gouvernement. Alors, c'est vrai que cette assemblée, je suis peut-être un petit peu
technique
et un petit peu direct, mais cette assemblée va avoir quelque chose, elle va être regardée peut-être davantage que par le passé. Et donc voilà, je vous le répète, il n'y a pas intérêt pour tout le monde, opposition comme majorité, que le blocage soit la grille de lecture que feront les Français.
Marie-Véronique, là.
Je pense aussi que cette assemblée va être davantage regardée pour la simple raison qu'elle représente un peu plus le peuple français qu'avant. Hein. 89 députés RN, beaucoup d'insoumis dans ce groupe NUPES. Donc, elle va être observée parce que les Français s'en sentiront peut-être un peu moins éloignés qu'habituellement. Et je pense que d'ailleurs, ça sera plus observé que ce conseil de refondation démocratique, je sais même le nom,
mais Conseil national de la refondation.
Conseil national de la refondation, dont on ne comprend absolument pas ce que c'est. Ça paraît très très éloigné, très lointain. Et d'ailleurs,
et dont on garde d'ailleurs
pas...
certains souvenirs de la consultation populaire avec le CESE ou qui avait fait pchit.
Ça accouche d'une souris. Voilà, c'est toujours l'éléphant qui accouche d'une souris. Il donne peu de choses. Donc, ça rejoint un peu l'insatisfaction qui est donnée sur la façon de gouverner. En fait, qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui au gouvernement? C'est d'être éloigné, d'être loin, de préférer aller à l'international plutôt de s'occuper de ce qui se passe en France, et puis de s'occuper de politique politicienne interne plutôt que de s'occuper de ce que les gens, de ce qui préoccupe vraiment les Français.
La différence, c'est que nous sommes en 5e République. J'entends beaucoup de commentateurs dire, vous allez voir, la Chambre, ça va être comme sous la 4e. La différence, c'est qu'on a un pouvoir exécutif qui est quand même beaucoup plus... solide
bien sûr.
Qu'en 1946, et on ne pourra pas avoir les blocages qu'on a connus sous René Coty.
Mais, tout à fait, même sous Vincent Auriol, de 46 à 58, c'était le Parlement, c'était l'Assemblée nationale, et beaucoup plus que le Sénat d'ailleurs, qui pouvait faire et défaire des présidents du Conseil. On n'est pas du tout dans cette... dans cette logique-là, et c'est vrai que même si l'Assemblée va être plus visible, les Français ont dans leur mire et dans leur spectre uniquement, quasi uniquement, le président et son gouvernement. C'est en ça qu'on est sur quelque chose de complètement inédit.
Alors ce nouveau gouvernement, comment est-ce que vous le voyez? Évidemment, je ne vous demande pas de sortir votre boule de cristal, mais est-ce qu'il y a des nouveaux transfuges qui pourraient arriver dans ce Macron, j'allais dire déjà deux, parce que... Enfin, borne deux, je veux dire.
Alors moi, mon pronostic, c'est que évidemment, ce gouvernement va s'ouvrir au moins au parti LR. Il y aura évidemment des ministres qui viendront du parti LR en priorité, je dirais. Et si le gouvernement actuel pouvait réussir à casser le groupe NUP en essayant d'avoir des transfuges, soit du Parti socialiste, soit du Parti Europe Écologie Les Verts, ça serait une énorme victoire. Citons un nom. On ne sait jamais, mais si Yannick Jadot intégrait le gouvernement, ça aurait le double avantage d'avoir une figure qui représente quand même le parti écologiste et qui le représente bien ou pas bien. Je laisse le spécialiste des sondages nous répondre, mais surtout, ça casserait le groupe NUPES et il commencerait enfin à reprogresser politiquement à l'Assemblée.
Jadot au gouvernement, vous voyez ça? Vous êtes en vert aujourd'hui, Frédéric.
Oui.
C'est peut-être un signe.
Peut-être vert foncé, vert pâle, c'est pas le vert d'Europe Écologie, les verts. Non, alors, c'est vrai que autant des ministres LR, je pense que c'est tout à fait plausible. Rappelez-vous Catherine Vautrin qui aurait dû prendre le tel
Matignon
qui aurait dû être nommé. C'est vrai qu'il y a une pression, si je puis dire, d'une partie de cet électorat de droite très Macron compatible qui a soutenu, c'est ce que j'appelais pendant le premier quinquennat, la Sainte Alliance LR-LREM, toutes les réformes. Notamment beaucoup de réformes qui ont été portées par l'actuelle Première ministre Elisabeth Borne. Et ce peuple de droite ne voudra pas que l'Assemblée devienne une chenille entre RN et France Insoumise. Sur Yannick Jadot, là où je suis un peu moins sûr, c'est que la NUPES a été finalement a donné une certaine déception. C'est un semi-échec. La gauche progresse de 2,5 fois en siège par rapport à 2017. Mais bon, Mélenchon Premier ministre, c'est un échec. Et en termes de nombre de députés, c'est un peu moins ce que les projections avaient promis. Et c'est vrai que le premier qui, dans l'écosystème ou la galaxie de la NUPES, irait au gouvernement, j'imagine une crise très forte pour les partis de gauche et pour le parti. Si Yannick Jadot, je n'ai absolument aucune information là-dessus.
Non, peut-être c'est Marie-Virginie qui
a sorti ça. Non, mais je me risque.
Tout à fait. C'est complètement farfelu. entre au gouvernement. Voilà, c'est une crise ouverte au sein de la gauche. Alors ça peut être un bon point pour le gouvernement, mais ça peut être aussi beaucoup de désordre.
Est-ce que si Yannick Jadot rentre au gouvernement, est-ce qu'il ne va pas faire une Pompili ? Faire une Pompili, ça veut dire arriver et dire oui à ce que dit Emmanuel Macron. Souvenez-vous quand même, Barbara Pompili, c'est quand même l'exemple de la militante écologiste pratiquement depuis son plus jeune âge, et elle a grandi avec ça et avec des idéaux notamment sur l'antinucléaire, etc. Et ensuite, qui nous annonce les annonces d'Emmanuel Macron, qui est quand même beaucoup plus raisonné, en tout cas beaucoup moins écologiste dans l'âme.
Mais le rapport de force a quand même changé. C'est-à-dire que là, Emmanuel Macron, il n'est pas tout à fait en position de force et il sera obligé d'écouter, notamment
donc, si
s'il veut une prise de guerre
Jadot.
Comme ça. Alors, pas complètement, je ne dis pas qu'il fera 100% du Jadot, ouais, mais
qu'il
négociera,
aussi, hein.
Il négociera très fortement. Et d'ailleurs, on ne peut pas avoir un gouvernement d'union nationale uniquement s'il y a des transfuges qui viennent de LR. Il faudrait à minima qu'il y ait un ou deux transfuges du Parti Socialiste. Olivier Faure, si on voulait, ça serait une prise de guerre absolument
chemin, mais
incroyable,
c'est
et Europe Écologie Les Verts. Mais sinon, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. Déjà qu'il n'y a ni le Rassemblement National, ni la France Insoumise.
Surtout que le terme union nationale est connoté très positivement dans l'imaginaire des Français. Ça veut dire, un, qu'on va faire jouer l'intérêt général avant les intérêts partisans ou particuliers, et deux, et ça, c'était les mêmes logiques, Pierre, sur ce qu'on disait concernant la cohabitation qui était plébiscitée par les Français pendant longtemps. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement d'union nationale ? C'est le meilleur de la gauche, le meilleur de la droite, le meilleur du centre. Et donc, ça peut être validé par les Français. On l'a testé en 2016 après les attentats de Nice, où il y avait eu un petit fumet de gouvernement d'union nationale. On l'a testé, bien sûr, en 2002, après le 21 avril, où compte tenu du fait que la gauche a quand même très largement contribué à la réélection de Jacques Chirac, et c'était une adhésion massive de trois quarts des Français. Dans les faits, c'est beaucoup moins sûr, mais c'est vrai que Yannick Jadot pourrait être entre Pompili, qui a été peut-être empêché, Nicolas Hulot, qui a aussi...
Qui claquait la
bilan,
porte à la fin.
Mais sur la base d'un bilan jugé famélique et très sévèrement par les Français, avec ce soupçon d'inaction dont je parlais, avoir dans le cadre d'un président moins fort qu'en 2017 pourrait peut-être tracer son sillon.
Et cette hypothèse, même si je suis d'accord, elle est très très éloignée et elle est très dure à obtenir, mais souvenons-nous quand même que la NUPES a dit non à la proposition de Mélenchon de ne former qu'un seul groupe à l'Assemblée nationale. Donc c'est pas non plus une union qui est ultra, ultra solide.
Ah,
et puis, il
ne
faut pas sous-estimer quand même l'attrait du pouvoir. Entre peser dans l'hémicycle et avoir une place de numéro 3 ou 4 au gouvernement, je pense qu'il y en a plus d'un qui pourrait se laisser tenter.
Alors, puisque vous avez cité Jean-Luc Mélenchon, quel avenir pour lui ? Il n'est pas député, il est encore effectivement le grand chef de cette aile
politique. Il y a un papier du JDD qui parle de vertige du vide. C'est vrai que c'était étrange psychologiquement de le voir aller à l'Assemblée nationale, faire la visite au nouveau député LFI. Il y avait une dimension de transmission assez sympathique, mais avoir des difficultés à quitter le Palais Bourbon. Et c'est vrai que pour lui, son échéance, si on était très direct, c'est 2027. Et 2027, qu'est-ce que c'est loin ?
C'est loin. Ouais.
Est-ce qu'il va être le François Bayrou ? C'est-à-dire s'est présenté quatre fois la présidentielle. Il s'est retiré en 2017 et ça a favorisé l'élection d'Emmanuel Macron. Il y a une sorte de vertige du vide. Qu'est-ce qu'il va faire dans un contexte où la scène parlementaire va être peut-être un peu plus visible, où il y a, c'est vrai, et c'est tout à l'honneur
de Jean-Luc
Mélenchon,
c'est son
d'avoir
choix.
Fait monter des personnalités de la France insoumise, Adrien Quatennens, une génération de femmes qui pourront peut-être être plus sollicité et le mettre peut-être un peu plus de côté. Pas lui, mais la manière dont il sera sollicité par les médias. Mais en tout cas, pour lui, l'horizon, c'est 2027.
Marie-Virginie Klein.
C'est tout le paradoxe d'un Jean-Luc Mélenchon qui dit à la fois qu'il faut maintenant laisser la place à la nouvelle garde, mais qui, en fait, veut quand même s'imposer comme le premier opposant à Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il va devenir pendant les années à venir ? Pour moi, ça va être juste la figure tutélaire de la NUPES, de ce groupe, que de loin, il va essayer quand même de garder soudé, mais il aura juste ce rôle de premier opposant au moment où le Rassemblement national veut continuer continuer à se dédiaboliser. Marine Le Pen prendra pas, à mon avis, ce rôle-là. Du côté des LR, c'est un peu pareil, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même des alliances qui commencent à se créer. Donc, Jean-Luc Mélenchon, il restera un grand tribun et premier opposant.
Il y a une analogie qu'on pourrait faire, Frédéric Dabi. C'est Chirac, au début des années 90, qui n'était que maire de Paris, qui avait son ami Édouard Balladur, qui lui, en l'occurrence, était en poste, dans la cohabitation. Ma question, c'est, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour Jean-Luc Mélenchon de se faire doubler dans son propre parti ?
C'est pas impossible, mais l'analogie avec Chirac, moi, je la valide, mais je nuance. Le RPR et l'UDF étaient en rapport de force écrasant à l'Assemblée nationale. Jacques Chirac n'avait que se soucier de préparer sa campagne présidentielle. Bon, il y a eu ans. Là, ce qui est compliqué pour la NUPES et pour LFI, c'est ce rapport de force. Quand on interroge les Français pour savoir qui est le premier opposant à Emmanuel Macron, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui sort, c'est Marine Le Pen. Et elle sera présente et ultra présente à l'Assemblée nationale. La visibilité de Marine Le Pen n'aura rien à voir avec celle de 2017 où elle n'avait qu'un non-groupe de 7 ou 8 personnes.
Oui, mais elle ira peut-être un peu moins de façon systématique à l'encontre du gouvernement. D'ailleurs, là, pour le vote de la confiance, si jamais il fallait voter la confiance à Elisabeth Borne le 5 juillet, ils se sont pas prononcés contre. Les seuls à se prononcer contre la confiance, c'est la NUPES. Et le Rassemblement National a le même positionnement que les LR, c'est soit l'abstention, soit l'opposition. Donc peut-être l'abstention. Donc à mon avis, ce rôle, de taper en permanence sur le gouvernement dès que la moindre mesure sort, ça sera plus Jean-Luc Mélenchon que Marine Le Pen qui veut devenir statutaire.
Mais ce n'est pas un rôle payant dans le regard des Français, parce que ça permet, comme vous le dites très bien, ça permet d'installer plus que jamais Marine Le Pen comme l'alternative. Deux fois finaliste de l'élection présidentielle en progrès systématique avec cette percée. C'est le seul parti, le RN, qui perce de 2017 à 2022. Alors, on ne sait pas de quoi ce quinquennat sera fait, il sera d'ores et déjà compliqué, mais c'est vrai qu'elle se positionne peut-être dans une logique présidentielle, elle aussi.
Ce n'est pas payant non plus, Frédéric Dabi, de s'abstenir et d'avoir le rôle de celui qui s'abstient à chaque texte de loi. C'est-à-dire que ça va revenir aux oreilles des Français, aux oreilles des électeurs, et ça, les électeurs, ils n'aiment pas non plus l'abstention. Ils aiment le combat politique.
Oui, ils aiment le combat, mais par exemple, sur la retraite à 65 ans. Ouais, c'est vrai que
par exemple,
la posture d'un groupe LFI et de la NUPES sera beaucoup plus visible et appréciée des Français, mais il n'y a pas que ce texte. Il y a aussi la dimension à proposer une alternative. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les soutiens sociodémographiques et politiques, l'avantage, la dynamique, et plutôt du côté du Rassemblement National. D'autant plus, Pierre, que nous rentrons à partir de maintenant, sauf dissolution que personne ne peut anticiper, dans un désert électoral. Pas d'élection 2023, des sénatoriales, personne ou presque n'est concerné. 2024, élection européenne, qui est une très bonne élection pour l'URN, et rien jusqu'en 2026. Donc, il y a aussi un très très long faux plat.
Vous avez prononcé un mot quand même que tout le monde a sur le bout des lèvres, la dissolution. Bah, je veux bien, mais alors... bien malin est celui qui saurait quand est-ce qu'elle interviendrait.
Oui, alors Madame Irma en fait aujourd'hui personne peut l'anticiper. Mon diagnostic d'intuition là, pardon, je peux pas faire parler autre chose puisque je crois pas qu'on ait de chiffres là-dessus.
C'est
quand même très compliqué de dissoudre l'Assemblée nationale. Là, à ce moment-là, Emmanuel Macron il est déjà en position de faiblesse. Dissoudre l'Assemblée nationale comme changer de Premier ministre, ça serait un nouveau signal. Qu'il intègre cette faiblesse. Il a plutôt intérêt, comme j'ai l'impression qu'il commence à le faire, en confirmant Elisabeth Borne, en confirmant sa ligne, à montrer qu'il est fort, qu'il a un cap, qu'il ne cède pas en permanence et tout de suite à l'opinion. Et s'il arrive à faire voter la confiance, et si Elisabeth Borne arrive à faire voter la confiance, ça sera quand même un signal pour continuer comme ça.
Il est disruptif, Emmanuel Macron. Alors là,
oui, il est disruptif, il est très plastique.
Et
il a une capacité d'adaptation qu'on avait pendant le premier quinquennat, le grand débat, les mesures liées à la Covid. Mais c'est vrai que, alors, dans une enquête IFOP fiduciale, une majorité très nette de Français ne souhaite pas qu'il procède à une dissolution dans les prochains mois. Bien sûr, les choses peuvent changer, mais attention à l'effet boomerang.
Aussi, à un moment donné,
bien sûr, attention à l'effet boomerang. On s'en souvient avec Jacques Chirac en 1997. C'est pas le même contexte, mais une dissolution de confort n'est jamais payante.
Un petit mot du Covid quand même, parce que tout à l'heure, nous avions le professeur Davido dans le journal de 18h qui appelait à la prudence, surtout, à remettre en tout cas le masque dans les transports en commun, dans les avions, dans les lieux clos. Est-ce que vous craignez des mesures drastiques à la rentrée, Marie-Virginie Klein? Madame Irma.
Ça va être
une... Alors Frédéric.
En tout cas, quand on interroge les Français sur la crise Covid, il y a une très nette intériorisation que la crise n'est pas finie. Les Français n'ont absolument pas tourné cette page. Ils sont plutôt favorables, dans un contexte où l'inquiétude reste très basse, mais elle remonte régulièrement, à des mesures de prophylaxie, notamment le retour du masque.
Moi, j'ai l'impression quand même que ça repart. Vraiment, les chiffres sont impressionnants. Je ne serais pas étonnée, moi, qui est quand même, surtout à la rentrée, qui est un moment important, notamment dans les dispositifs à l'école, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des nouveaux dispositifs.
Retour du masque à l'école, peut-être.
Oui, pour certaines classes. Mais ce Covid, il est en train de se faire doubler par la crainte qu'on a autour de la variole du singe, qui, elle, pour le coup... occupe pas mal les esprits, en tout cas c'est ce que je vois dans pas mal d'articles de presse.
Merci à vous deux, merci à vous Marie-Virginie Klein, merci à Frédéric Dabi de l'IFOP. Juste après le journal de 19h, je recevrai le philosophe André Comte-Sponville qui, avec Luc Ferry, souvenez-vous, avait publié La sagesse des modernes. Et bien il republie ce livre. Pourquoi? Parce qu'il est diablement d'actualité. Puis à 19h30, dans les débats de Panorama, on s'intéresse à cette décision qui va tomber. En 2035, plus de voitures thermiques, ni vendues, ni produites. Est-ce là l'ultimatum qui préface un autre ultimatum, celui peut-être de plus de voitures du tout? On s'interroge sur tout ça après le journal de 19h.